Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile, mais pas que. Cette semaine, au sommaire de Ça roule, nous fêtons un anniversaire avec les 70 ans de l'une des voitures françaises les plus populaires de la marque aux losanges, avec la Renault Dauphine. Cette voiture populaire deviendra d'ailleurs la première voiture française de l'histoire à franchir les 2 millions d'exemplaires produits. Retour donc sur l'histoire de cette icône de l'automobile française. Allez, on change pas les bonnes habitudes dans Ça roule avec un peu d'histoire. En 1949, Pierre Lefaucheux, qui est alors PDG de la Régie Renault, dîne avec Fernand Picard, directeur des études de la marque aux losanges. Entre deux plats, il pose une évidence. La Renault 4 chevaux se vend bien, mais les Français vont bientôt vouloir plus grand, plus confortable. Il faut anticiper donc l'augmentation du niveau de vie des Français. C'est là qu'arrive la naissance du projet 109. Avant de dessiner la moindre ligne, Renault commande des sondages intitulés « Pourquoi achète-t-on une voiture plutôt qu'une autre ?» Résultat, le prix arrive en tête des critères d'achat, suivi de la consommation et de la rentabilité. Également, 77% des Français se satisfont de 110 km/h. Ce qui permet de dépasser la majeure partie des voitures de l'époque. Le cahier des charges, quant à lui, s'impose alors de lui-même. Une berline 4 places, capable de dépasser 110 km/h, consommant moins de 7 litres au 100, et située entre la 4 chevaux et la chère frégate. C'est donc en juillet 1951 que le projet reçoit le numéro de dossier 109. La contrainte principale, réutiliser un maximum de pièces de la Renault 4 chevaux pour comprimer les coûts. Même architecture à moteur arrière, même 4 cylindres, mais une carrosserie entièrement nouvelle conçue pour accueillir 4 adultes aisément. Du projet à la réalité, il se sera passé presque un an jour pour jour. Dans la nuit du 24 juillet 1952, le premier prototype sort du centre technique de Billancourt et effectue ses premiers kilomètres. Les lignes réalisées alors par Philippe Charbonneau sont presque définitives. Il faudra ensuite 2 millions de kilomètres d'essais sur toutes les routes d'Europe et ajouter à cela plus d'un million de kilomètres sur la piste privée de Lardy. Et, comme dirait l'autre, il est né le divin enfant. En août 1953, Fernand Picard transporte incognito un prototype chez le concessionnaire Renault de Madrid et roule 2200 km sur les routes poussiéreuses d'Espagne. Verdict sans concession. La cylindrée de 748 cm3 est insuffisante avec des reprises décevantes. Au siège de Billancourt, la décision est prise de passer à 845 cm3 en augmentant l'alésage à 58 mm. La puissance fiscale, elle, atteint 5 chevaux. Cette même année, qui entre parenthèses est une excellente année puisque c'est l'année de naissance de ma maman, Renault va être consulté par le carrossier italien Ghia qui permettrait d'affiner l'arrière de la voiture et de sceller définitivement les lignes de la voiture. Malheureusement, la gestation du projet 109 connaîtra un drame. En effet, Pierre Lefaucheux n'assistera pas au lancement. Il trouvera la mort le 11 février 1955 au volant de sa Renault Frégate qui dérape sur une plaque de verglas près de Saint-Dizier. C'est alors Pierre Dreyfus qui reprend les rênes de la régie le 1er mars 1955 et mène la Dauphine jusqu'à sa commercialisation. En décembre 1955, entre parenthèses excellent mois puisque c'est mon mois de naissance, pas de la même année, la première Dauphine de série sort des chaînes de Flins. Alors le projet 109 est prêt. Il ne lui reste plus qu'à trouver un nom et ce sera Dauphine. Le nom est né lors d'un dîner présidé par Fernand Picard à l'auberge de Port-Royal. Un collaborateur s'exclame « La 4 chevaux est la reine, la nouvelle venue ne peut être que la Dauphine !» Le nom est alors adopté sur le champ. Le 4 février 1956, 6 Dauphines arrivent discrètement à Ajaccio, cachées dans de grosses caisses à bord du cargo Simos. Une campagne d'essais secrète est alors organisé par Robert Sicot pour la presse européenne sur les routes enneigées de la Corse. Et c'est un mois plus tard, quasiment jour pour jour, le 6 mars 1956, à 18h30, que la Renault Dauphine est présentée au public au palais de Chaillot, devant 20 000 personnes. Au même moment, tous les concessionnaires de France et de l'étranger dévoilent la voiture. Deux jours plus tard, elle apparaît au salon de Genève. La Renault Dauphine repose sur une caisse autoporteuse, en tôle d'acier aux ailes boulonnées. Une suspension à quatre roues indépendantes, avec ressorts hélicoïdaux, des amortisseurs hydrauliques télescopiques et un moteur ventoux 845 cm3 de 26 chevaux à 4200 tours minute. Bref, une voiture simple, solide et économique. Voilà ce qui fait la force de la Renault Dauphine. L'habitabilité, quant à elle, est bien supérieure à la 4 chevaux, grâce à son design, mais également à son grand coffre à l'avant, dont le capot s'ouvre à contresens de la marche pour optimiser l'espace. Quand la Renault Dauphine est sortie, il n'y avait que deux options disponibles au catalogue, à savoir le toit ouvrant et l'embrayage Fairlec. Ce dernier est une innovation, un système électromagnétique qui permettait de passer les vitesses sans pédale d'embrayage grâce à un contacteur logé dans le pied du levier. Ce mécanisme me rappelle étrangement le mécanisme que l'on trouvait sur les Renault Twingo avec le système Quick Shift, qui était un module électronique qui pilotait la montée et la descente des rapports. Étrange. Les clients de l'époque pouvaient également choisir parmi une large palette de couleurs extérieures et de tissus intérieurs grâce au travail de l'artiste féminine Paul Marot, qui souhaitait donner de la gaieté à la voiture. Avec un superbe rouge Montijo ou encore un superbe jaune Bahamas, un bleu Hogar ou encore un blanc Réjeanne. C'est également elle qui imagina le médaillon du capot qui ornera toutes les Dauphines. Le succès de la Renault Dauphine est immédiat. Les cadences de production passent de 350 à 600 véhicules par jour à l'usine de Flins, rebaptisée usine Pierre Le Faucheux, en hommage donc au PDG défunt. Le 22 février 1960, la millionième Dauphine sort des chaînes de production. En compétition, la voiture se distingue également dès son lancement. En avril 1956, quatre Dauphines remportent les quatre premières places de la catégorie au 1000-1000. Une première qui annonce un palmarès sportif bien fourni. Victoire au Tour de Corse 1956, avec un équipage 100% féminin. 1958 et 1962, victoire au rallye de Monte Carlo 1958 et encore de nombreuses autres victoires dans sa catégorie. Tout au long de sa carrière, la Renault Dauphine se décline et se perfectionne sans jamais rompre avec ses fondamentaux. C'est cette capacité à évoluer en douceur qui lui permettra de rester compétitive face à une concurrence de plus en plus affûtée. Pour donner une image sportive à sa berline, la marque aux losanges va contacter Amédée Gordini au bon moment. Le sorcier du moteur traverse une période difficile après sa rupture avec Simca en 1951 et son atelier du boulevard Victor qui menace lui de fermer. C'est Fernand Picard qui va lui proposer de préparer donc une Renault Dauphine survitaminée pour le Salon de Paris 1957. Mais avec un cahier des charges serré, car il va falloir obtenir 35 à 37 chevaux avec un supplément de prix limité. Car la Renault Dauphine doit rester une voiture dite économique, face à une concurrence de plus en plus affûtée. Mais le sorcier Gordini va faire des merveilles. En effet, il retravaille la culasse avec des chambres de combustion en V, incline les soupapes à 7 degrés, renforce leur ressort de rappel et monte un carburateur inversé Solex 32 PIBT, à starter automatique s'il vous plaît. Il ajoute à cela un quatrième rapport à la boîte. Résultat, 37 chevaux à 5000 tours minute au lieu de 26 chevaux et 130 km/h en vitesse de pointe. En 1960, la puissance grimpe encore à 40 chevaux. La Dauphine Gordini invente un concept encore bien vivant, celui de la petite voiture sportive et économique. Paris donc, gagné. Il faudra attendre 1958 et une innovation cette fois-ci de confort. Une innovation de confort discrète mais efficace. On retrouve donc sur la Renault Dauphine des tampons de caoutchouc à flexibilité variable à l'avant et des coussins pneumatiques remplis d'air atmosphérique à l'arrière. La Renault Dauphine Aérostal flotte davantage sur les dodanes et offre un confort notablement amélioré au point que Renault en fait un argument publicitaire majeur à l'époque. Même si la Renault Dauphine doit rester dans un standard économique et qu'elle s'est pourvue tout de même d'une mécanique Gordini, eh bien elle doit avoir sa version luxe. Et celle-ci arrivera en 1961 avec l'Ondine. La version luxe donc de la gamme se distingue par ses finitions plus soignées. Un tableau de bord amélioré et le choix entre la mécanique standard ou celle de la Gordini. Le créateur de bijoux Van Cleef & Arpels signera même le monogramme à l'intérieur. Elle reçoit également un volant noir en V inversé et une planche de bord assortie pour une clientèle qui voulait se distinguer sans payer le prix d'une voiture de luxe. En 1961 toujours, on va monter d'un cran dans la sportivité. En effet, la Renault Dauphine, après avoir eu une motorisation Gordini, va sortir la 1093. Elle sera présentée en 1961 au Salon de Paris. La Renault Dauphine 1093 devient le sommet de la gamme en termes de sportivité. Elle est la version commerciale des modèles de compétition engagés par la régie dans la catégorie tourisme. Il fallait au moins 1000 exemplaires pour son homologation. Cette petite sportive française reçoit son moteur Ventoux. Il reçoit un carburateur double corps Solex 32 PAI A3 de fabrication italienne, de nouveaux collecteurs d'admission et d'échappement auto bleu, des pistons bombés portant le taux de compression à 9,2 pour 1 et enfin des soupapes d'échappement à rotateur et queue de 7 mm et un arbre à cames spécifique au modèle. Résultat des courses, 49 chevaux d'in et un 0 à 100 abattu en 15,5 secondes. La Renault Dauphine 1093 se reconnaît à ses deux bandes bleues sur sa robe blanche, à l'inverse des Gordini, qui elles sont parues de deux bandes blanches sur une carrosserie bleue. Ses phares agrandis de 180 mm contre 160 mm et son contour dans le vide-poche gauche. Une populaire française donc très désirable. Allez, tout de suite une petite page musicale avec Johnny Hallyday avec ce titre qui va si bien à notre star du jour, la Renault Dauphine, elle est terrible. Et l'on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission anniversaire sur les 70 ans d'une icône française, la Renault Dauphine. A tout de suite.
Et regarde un peu, celle qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle la guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu, cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire bon rouler avec ça. Et la chose que je pense, c'est plus de l'essence. J'ai perçu subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu, à que je travaille, quand je pourrai me la payer content. J'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote est baissée sans trop nous presser. Ah nous descendrons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant passer diront mais d'ici. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah il est terrible. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille Citron. Et j'ai bonne mine devant la belle maison de celle que j'aime, les pages à plat. Ouais, pourtant si elle m'embrasse rien qu'une fois, je dirais certainement en parlant de moi. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah il est terrible.
C'était Johnny Hallyday avec « Elle est terrible ». Allez, sans plus attendre, on retourne donc à cette émission anniversaire sur les 70 ans d'une icône française, la Renault Dauphine. La Renault Dauphine a su également s'exporter. Alors oui, avec plus ou moins de succès, suivant les pays. Aux États-Unis, par exemple, après le relatif succès de la Renault 4 chevaux au pays de l'oncle Sam, Renault continue l'aventure avec la Dauphine. La voiture est produite en France avec les modifications nécessaires au pays de l'oncle Sam. Grand phare, chrome supplémentaire, chauffage grand froid, réservoir protégé. Le 22 mai 1957, Pierre Dreyfus présente officiellement la Renault Dauphine dans le tout nouveau showroom Renault de Park Avenue à New York. La princesse, comme la surnomment les Américains, est proposée à 1 600 $ quand la moins chère des Américaines en coûte 2 000. Elle envahit les magazines de mode. En novembre 1959, elle s'affiche même en page intérieure du magazine Playboy, s'il vous plaît. En 1959, Renault immatricule 90 536 Dauphines aux États-Unis, par l'intermédiaire de 900 concessionnaires. Au total, c'est pas moins de 410 000 Renault Dauphines qui traverseront l'Atlantique. Mais le rêve américain tournera court. En effet, les pannes à répétition par grand froid, la corrosion précoce, ou encore la mauvaise qualité des plastiques et des chromes, et surtout l'absence quasi totale de service après-vente, font s'effondrer les ventes. Et malheureusement, cette mauvaise image de marque va coller à Renault pendant des décennies au pays de l'oncle Sam. Pour la petite anecdote d'ailleurs, puisque c'est très à la mode en ce moment, la voiture électrique, eh bien figurez-vous que la Renault Dauphine a eu sa version électrique aux États-Unis. Si, si, c'est vrai, sous le nom de Enea Kilowatt. Elle était à l'initiative de Russell Feynman, président de la National Union Electric Corporation, l'EDF américaine si vous préférez, et fabricant de batteries, que le projet a vu le jour. Il fit commande de 200 Renault Dauphine américaines à la régie Renault, dépourvues de moteurs, afin d'y installer donc un moteur électrique et plusieurs batteries 6 volts. Seulement 32 modèles furent construits à cause d'un coût élevé et d'une autonomie très limitée, autour de 50 km. On ne fait pas vraiment mieux à l'heure actuelle. Oh, je plaisante. Mais il n'y a pas que les États-Unis comme marché pour la Renault Dauphine. Il y aura également d'autres pays à travers le monde. En Italie, un accord de corporation est même signé entre la régie et la marque Alfa Romeo en octobre 1958. Les Renault Dauphine seront assemblés à l'usine de Portello à Milan, aux côtés des Giulietta, et commercialisés comme Dauphine Alfa Romeo. Mais l'accord entre les deux marques va vite revirer au vinaigre. En effet, Renault rechigne à distribuer les Alfa Romeo dans ses concessions, tandis que la marque continue d'exporter ses Renault Dauphine françaises en Italie. Fiat fait également pression sur le gouvernement italien pour étouffer cette concurrente. Pour l'Espagne, c'est sa filiale FASA qui produit la Renault Dauphine à Valladolid. À partir de 1958, la Dauphine Gordini en 1961 et Londine en 1962. Cette dernière adopte en 1964 la boîte à 4 vitesses de la Gordini, contrairement au modèle français qui conservait 3 rapports. En Argentine, l'Industrias Calzer Argentina, l'IKEA, et non pas la marque de meubles, et la régie signe un accord le 27 novembre 1959. La première Renault Dauphine sort à Santa Isabel le 12 juin 1960. La base est proche de la version USA, mais le compteur est en km/h avec les phares européens. En ce qui concerne la version de la Dauphine Gordini, elle y sera produite sous le nom de IKEA Gordini, jusqu'au 25 septembre 1968. Au Brésil, le GEIA approuve le projet de Willys Overland le 26 décembre 1958. Cette marque américaine, qui n'a alors jamais produit de voiture civile, lance sa première Dauphine brésilienne le 12 novembre 1959. Quelques 19 000 unités sortent avant juin 1962. Il y aura même une version Gordini brésilienne qui suivra, déclinée, elle, jusqu'à la Gordini 4 en 1968, quand Ford rachète Willys. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Après une année record en 1960, avec 402 546 exemplaires de produits, la Renault Dauphine entame son déclin. La concurrence s'intensifie, avec la Citroën Amicis et la Simca 1000, attire une nouvelle clientèle et les défauts de la voiture. Tendance au survirage lié au moteur arrière, sensibilité à la rouille, déstabilisation par vent fort, sont de plus en plus critiquées par la clientèle, mais également par la presse spécialisée qui en remet une couche. Comme la Renault 8 qui suivra par la suite, il ne fallait pas brusquer la Renault Dauphine pour ne pas finir dans le décor. Il y en a même qui mettaient un sac de sable à l'avant pour rendre le train avant plus stable. Après le déclin prononcé et amorcé, en 1963, l'Ondine et la 1093 disparaissaient du catalogue. La gamme alors se simplifie. En 1964, la Renault Dauphine de base cède la place à la version export à 4 vitesses. En 1965, seule la Dauphine Gordini est maintenue. La production chute inexorablement avec 13 062 unités en 1967. Décembre 1967, qui est pourtant un très bon mois, comme je vous l'ai dit précédemment, sonne la fin de la production en France. Le bilan final de la carrière de la Renault Dauphine est étourdissant. 2 123 396 exemplaires de fabriqués en 11 ans de carrière, faisant de la Renault Dauphine la première voiture française de l'histoire à franchir la barre des 2 millions d'unités. Son héritage est immense. Elle a ouvert la voie à la vocation export de Renault, le concept de la petite voiture survitaminée avec la Gordini, et prouvé qu'une voiture populaire française pouvait s'imposer sur tous les continents. 70 ans après son lancement, la Dauphine reste un symbole vivant de l'âge d'or de l'automobile populaire française. Joyeux anniversaire, la Dauphine! Eh bien voilà, comme je le dis toujours, le temps qui nous était imparti est parti. Cette émission se termine avec les 70 ans de cette voiture populaire qu'est la Renault Dauphine. Et comme je le disais dans l'émission, 70 ans après son lancement, la Dauphine reste un symbole vivant de l'âge d'or de l'automobile populaire française. Merci de m'avoir suivi et je vous dis quant à moi à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route. Plus vite.